Parmi les formes de lutte, de protestation, de résistance, il y a aussi le silence. Ça peut être une minute de silence, mais aussi un rassemblement, une marche silencieuse, un cercle où l'on ne pipe mot. Ça peut être un blocage sur les réseaux sociaux, la décision d'ignorer quelqu'un ou quelque chose, de faire comme si ça n'existait plus. C'est peut-être tout simplement un refus, appelez-le comme vous voulez. A comme absence, B comme boycott, C comme cancel s'il le faut, c'est le silence radio qui fait souvent plus de bruit que la tribune, la pétition ou la grande manifestation. Répondre par le silence, c'est pas forcément acquiescer ou consentir, c'est parfois une désapprobation, une façon de dire non. Face au fracas du monde, à la logorée de certains, à toutes les agressions verbales, il arrive que le silence soit plus éloquent. C'est le silence qui en dit long, vous savez, c'est le silence qui fait du bruit. Vous l'avez remarqué, vous aussi, quand vous décidez de vous taire, soudain les mots qui entourent votre silence, ceux qui viennent après ou ceux qui ont été dits juste avant, sont beaucoup plus saillants. On est forcé d'y réfléchir, de les analyser, peut-être même de les contester. Celui qui se tait a l'avantage de paraître plus sage. C'est lui qui décide, qui mène le jeu, qui, dans un conflit, se dégage. C'est lui dont on entend souvent le message.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui joue parfois du silence. Elle est pianiste, née en Géorgie à la fin des années 80 et connue dans le monde entier pour ses interprétations fougueuses de Stravinsky, Ravel, Schubert ou Rachmaninov. Elle sera la marraine ce soir de notre concert Uni pour l'Ukraine avec la Croix-Rouge française ici à l'auditorium de Radio France, retransmis en direct sur France Inter et sur France 2, où elle jouera le concerto numéro 23 pour piano orchestre de Mozart. Bonjour Katia Bouniatichvili. Merci beaucoup.
Merci
d'être avec
vous.
Nous ce matin.
D'être là.
Par quels moyens est-ce qu'on peut protester quand on est un artiste, quand on est une artiste?
Je pense que chacun trouve son côté individuel de la compréhension de proteste. Pour moi, c'était assez clair et évident. Je ne voulais pas mettre le pied à l'endroit qui pouvait être agresseur et qui pouvait créer des victimes.
Quand est-ce que vous avez commencé à ne plus jouer en Russie, à ne plus accepter de vous produire dans ce pays, à faire le choix du silence, parce que c'est ça dont vous parlez?
Oui. En 2008, depuis la guerre en Géorgie, depuis que les civils étaient bombardés, depuis que mon pays, et même si c'était pas mon pays, comme un être humain, je ne pouvais pas ne pas faire quelque chose. Alors, se taire, oui, le silence, ça peut être aussi le suspense, le silence, ça peut être aussi le calme total, ou quelque chose est né, on ne sait pas quoi. Mais dans ces cas-là, ce n'était pas vraiment le silence, c'était plus protester dans le sens de dire,
oui,
de ne pas se taire, mais de dire que je ne viendrai pas. Alors peut-être ils s'en fichent aussi. C'est dommage pour moi aussi parce que j'aime la Russie, j'aime cette culture.
Comment ça a été perçu justement dans le monde de la musique? Ce qui est un boycott.
Je sais pas, à cette époque, j'étais peut-être seule personne dans ce milieu qui disait ça. Donc ça n'avait pas une telle grande importance parce que ça n'empêchait personne d'autre d'exister de leur façon et d'être libre dans ce qu'ils font. Tout simplement, je sentais que je sentais une certaine responsabilité en tant que l'artiste, un être humain, que je devais au contraire dire quelque chose, ne pas jouer en Russie, même si j'aime beaucoup ce pays et j'aime cette culture, et ça c'est important à souligner. Je me sens très connectée avec cette culture et ça me manque.
Oui, c'est,
mais justement, c'est s'empêcher de quelque chose qui nous manque à soi-même aussi. C'était une forme de proteste pour eux, mais aussi une motivation pour moi que ces problématiques, ces problèmes se terminent un jour.
Vous êtes née, Katia Bouniatichvili, à la fin des années 80, je le disais, en Géorgie, qui faisait encore partie de l'Union soviétique. Dans quelle idée de la Russie est-ce que vous avez baigné, vous, depuis l'enfance? Vous dites que c'est un pays qui compte.
Oui, c'était deux Russies qui existaient dans notre conscience, une qu'on aimait, ce qui était la Russie des gens qu'on aime, la Russie de la culture, de la littérature, de la musique. La Russie, quand tout simplement on a une sensibilité très, très évoluée envers ce pays, et l'autre Russie qui était tout simplement la politique qui était au début impérialiste ou même féodale avant, mais surtout cette mentalité de conquérir, voilà, envahir.
Ça
nous faisait peur. Et surtout, on avait envie de protester parce que les Géorgiens étaient toujours des gens qui voulaient l'indépendance, la liberté. C'était difficile d'accepter qu'on était juste une, conçu comme une région. Parce que nous, on avait notre culture qui était complètement différente, bien évidemment.
Vous savez, en vous écoutant, je pense tout de suite au directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasilian, né lui aussi en Géorgie, et qui, avant son défilé en hommage à l'Ukraine avant-hier, a publié une lettre où il dit que cette guerre a réveillé en lui la douleur et les traumatismes qu'il porte depuis la guerre civile de 1993, et qu'il est devenu, je cite, un réfugié pour toujours. Réfugié pour toujours, qu'est-ce que ça vous évoque, à vous, Katia ?
Je me sens pas comme réfugiée, en fait, malgré les guerres régionales, civiles, ou avec la Russie que nous avons eues. Toutes ces guerres, ça laisse les traumatismes. Bon, j'étais très petite en 93. Mais ça laisse des traumatismes, bien évidemment, mais, je ne me suis jamais sentie comme réfugiée. Moi, je pense juste, ce qui manque en Géorgie, c'est en Ukraine et en général sur ces territoires, c'est la possibilité de choisir ce que nous voulons être, la direction que nous voulons prendre, parce que on est géopolitiquement, on est à l'endroit où on n'a pas vraiment le droit d'être ce qu'on a envie d'être. Donc réfugié, je ne dirais pas non. On reste sur place et même en voyageant, on reste quand même d'où on vient.
Oui.
Mais j'ai pas l'impression que je suis. On avait toujours la possibilité d'y revenir en Géorgie. Ça n'a jamais été un problème d'y revenir, par exemple. Mais tout simplement, le choix de pays est souvent négligé, comme c'est le cas en Ukraine. Et plus que négligé, on est puni pour notre choix. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, surtout qu'on a l'impression qu'on est un pays démocratique, mais quelque part, on étouffe nos envies, et c'est ça qui est plutôt difficile à vivre avec.
Vous étiez très jeune, vous le dites à l'époque, Katia. Pour autant, qu'est-ce qu'il en reste en vous de cette guerre vécue à hauteur d'enfant, justement, quand vous étiez petite?
Je pense la peur et en même temps peut-être quelque part une certaine force. C'est très désagréable à dire, une certaine force que dans le sens que on est habitué à être dans la situation où on doit en permanence se défendre ou en permanence attendre que peut-être on sera attaqué, agressé, etc. Cette force, bien évidemment, la force est toujours bien, mais en même temps c'est quelque part traumatisant parce qu'on a l'impression d'être toujours tendu et prête, être là au niveau, pas seulement pour soi-même, mais surtout pour les autres, pour pouvoir être un petit peu aussi défendeur des autres.
Alors en 2008, vous le disiez, il y a eu une autre guerre entre les provinces séparatistes pro-russes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la Géorgie, et ça s'est soldé par l'occupation de ces territoires par la Russie. Vous aviez déjà une vingtaine d'années à l'époque, Katia Bounatichvili. Ce nouveau conflit, quel souvenir est-ce que vous en gardez, vous qui viviez déjà en France, je crois?
Là, c'est là que j'ai eu conscience vraiment de ce qu'était la guerre. Et c'est là que j'ai pris des décisions avec plus de responsabilité, parce qu'avant j'étais une enfant, mais c'est là que j'ai décidé que justement je ne pourrais pas jouer en Russie. Donc ça a laissé un traumatisme dans le sens que j'étais en tournée, mais ma famille était en Géorgie, il y avait les bombes qui s'explosaient à côté de l'aéroport. Et cette peur que je n'étais pas sur place, et je suis rentrée ensuite en Géorgie, bien évidemment, mais ça a duré seulement 5 jours, mais c'était une telle traumatisme. Pour ça, c'est important de parler maintenant, quand on parle de l'Ukraine, il faut que le feu cesse, parce que ça dure déjà un moment, il y a tellement de victimes, et puis ça doit être la priorité, parce que bien évidemment, on sait où est le mal et le bien, et on sait les priorités et le but des pays, et puis on aimerait défendre ce but, et ce but battre pour ce but, et ensuite le patriotisme bien évidemment joue le rôle, mais l'essentiel, je pense, comme c'est l'être humain et la vie des êtres humains, et dans la peur et le mal qu'ils vivent en ces moments, donc je reste quand même pacifiste et surtout activement pacifiste, dans le sens qu'il faut surtout essayer d'arrêter le plus vite possible la guerre. Ça doit être vraiment la motivation primordiale, je pense.
Jeudi dernier, le Premier ministre géorgien a déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne. Dans quelle mesure est-ce que vous y êtes favorable?
Non, tout à fait, parce que on aime cette civilisation, on s'étend pour ça, tout simplement parce que dans les pays occidentaux, malgré les problèmes qui existent, les êtres humains et les droits des êtres humains sont mieux protégés. Seulement pour ça, parce que dans différents continents, dans différentes cultures, cette différence, c'est beau de garder cette différence, et il ne faut pas devenir absolument une culture et, ou appartenir à une culture ou une civilisation. Non, on peut garder ce que nous avons, mais le droit de l'homme, c'est quand même mieux respecté, protégé ici, malgré tout d'autres problèmes. C'est beaucoup mieux ici quand même. Donc c'est normal qu'il y ait cette tendance d'être appartenir à ce monde où le droit des êtres humains sont mieux protégés et respectés.
Celle qui est mieux ici, dans cette émission, vous la connaissez, Katia, c'est évidemment la culture et son actualité tout entière dans la résistance et la protestation. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 8 mars?
Unis pour l'Ukraine, soirée spéciale ce soir en direct simultané sur France 2 et France Inter à partir de 21h10.
Ce soir, vous l'avez compris, Radio France, France Télévisions et la Croix-Rouge française s'unissent pour proposer ce concert caritatif de soutien au peuple ukrainien et à toutes les populations touchées par le conflit en direct. Dès 21h10, donc présenté par Leïla Kadour, Boudadi et Nagui, la soirée réunira au Studio 104 Clara Luciani, Angélique Kidjo ou Sofiane Pamar, mais aussi à l'Auditorium Patricia Petitbon, Benjamin Bernheim et vous, Katia Bouniatichvili, aux côtés des formations musicales de Radio France.
J'ai toujours dit, je vais essayer de montrer la douleur des guerres d'une autre façon, plus pudique.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, aujourd'hui, le Musée de la Libération à Paris inaugure l'expo Femmes photographes de guerre qui met à l'honneur 8 d'entre elles pour retracer 75 ans de conflits internationaux. À travers près de 80 clichés, on y découvre notamment le travail de la Française Christine Spengler qui couvrit les conflits au Vietnam, au Tchad, en Iran ou au Liban, c'est grand. Enfin, un plaidoyer pour notre humanité commune. Le chanteur Sting a partagé sur ses réseaux une reprise acoustique de son morceau Russians, sorti en 1985 durant la guerre froide, composé alors comme un hymne à la fraternité et à la tolérance. La chanson, aujourd'hui réinterprétée par l'artiste, trouve un nouvel écho tragique. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait pertinente à nouveau, a déclaré Sting. Nous non plus. La pianiste franco-géorgienne Katia Bouniatichvili, invitée de Boomerang ce matin à quelques heures de ce concert pour la paix en Ukraine. Ce soir à la Maison de la Radio, l'occasion de revenir aussi sur ce lien si particulier que vous entretenez avec la France. On l'entend à votre voix, à votre langue. Dans votre famille, quand vous étiez petite, qu'est-ce que ça représentait, la France ?
Un rêve, je pense. Mélange de fantasy créative, de l'art et de l'autre côté droit de l'homme, je pense. En tout cas, c'est comme ça que mes parents me présentaient. J'avais envie d'apprendre la langue, donc j'ai appris.
Comment vous avez appris cette langue?
J'ai pris des cours pendant une année quand j'avais, je sais plus si j'avais 13 ou 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Pendant une année, j'ai pris des cours et ensuite, les films. J'aime beaucoup le cinéma français.
C'est là où on voit le lien aussi entre nos cultures, hein, et la dimension toute européenne de ces pays également, dans leur lien avec la France.
Tout à fait. La connexion culturelle, c'est, je pense, c'est l'essentiel pour créer une civilisation, bien évidemment.
Quelle langue est-ce que c'est devenu pour vous le français, aujourd'hui ?
Je pense que c'est la langue très penseuse, pour moi. Parce qu'on aime beaucoup débattre, on aime beaucoup d'aller le plus loin possible dans la fantaisie, dans le sens que on peut même des fois s'éloigner du présent, de la réalité, mais j'aime ça, parce qu'un être humain, ce n'est pas juste la réalité dans le sens précis de ce qui se passe en ce moment, mais à quel point on peut aller le plus loin possible. Ça, c'est très français pour moi.
C'est pour ça que vous avez choisi de vous installer en France, parce qu'après tout, Katia, vous auriez pu choisir un autre pays européen, l'Autriche, par exemple, où vous aviez fait une partie de vos études au piano.
Oui, c'était tellement spontané, j'ai pas vraiment fait une réflexion pourquoi je voulais installer en France. Je voulais, j'ai décidé, dans quelques mois, j'étais déjà là.
C'était un acte de liberté, à vous entendre.
Tout à fait, je pense. C'était une décision où je devais prendre où je voulais m'installer, parce que soit je devais rester à Vienne parce que je faisais des études, mais comme les tournées, la carrière a commencé, je me suis dit non, je vais aller là où j'ai envie vraiment. Et c'était vraiment une décision très spontanée, très rapide.
Et c'est un mot qui revient tout le temps chez vous, le mot liberté, quand vous parlez de votre travail, quand vous parlez de vous. Quand est-ce que vous vous sentez la plus libre ?
Ah, je sais pas, c'est une bonne question. Ces derniers temps, j'ai même pas réfléchi à ça. Avant, j'ai parlé, j'ai réfléchi plus. C'est le moment quand je joue, mais pas toujours. C'est les moments quand je me sens complètement, quand je suis en oubli de soi-même, quand j'oublie mon ego, mon existence, ma présence et mon être dans le sens matériel. Là, je suppose.
Et qu'est-ce que ça veut dire être libre avec son instrument, avec le piano en l'occurrence,
Katia? Justement, c'est ça. Quand matériel devient immatériel, c'est-à-dire l'instrument est assez matériel, c'est assez grand, assez physique comme instrument. D'autres instruments peut-être aussi, mais particulièrement le piano, je pense. Mais ces moments quand moi-même et le piano, nous devenons un son, la sonorité, juste les sons et l'émotion. Là, je pense qu'il y a une certaine fusion quand. Immatérialisation de ce qui est quelque chose de matériel, je suppose.
Parce que à quoi on s'expose ? Qu'est-ce qu'on risque quand on est une femme et qu'on assume pleinement cette liberté comme vous le faites ?
Je sais pas, peut-être un regard un peu critique, dogmatique, de sortir du certain cadre.
Oui, c'est assez intéressant hein, de toutes les remarques misogynes que vous avez dû essuyer depuis le début de votre carrière. Dans quelle mesure est-ce qu'il vous est arrivé, Katia Bougnatichvili, de sentir qu'on vous prenait moins au sérieux, précisément parce que vous étiez une femme libre?
Alors au début, je ne pensais pas que c'était lié avec mon sexe. Je ne pensais pas que c'est parce que je suis une femme. Je pensais que parce que j'avais une... On a parlé souvent de mon fugue tempérament. Je pensais qu'à cause de ces tempéraments, ces côtés émotionnels, peut-être on n'allait pas respecter le côté plus rationnel et plus réfléchi, plus intellectuel de moi comme l'artiste. Mais ensuite, il y a eu d'autres petits détails qui sont menés vers fougue, tempérament, mais aussi, je ne sais pas, garde-robe, physique, etc. Et là, j'ai senti qu'on accentuait trop, je parle pas de médias qui aiment bien évidemment des choses qui sont aussi un petit peu visuelles, etc. Mais je parle de critiques professionnelles, mes collègues qui essayaient d'appuyer sur ces détails. Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que ce n'était pas pour justement négliger l'autre partie qui était si importante pour moi et essentielle pour moi en tant qu'artiste? Mais vous savez, tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est essentiel, c'est que les gens que j'aime, quel regard ils sont. Et des fois, on a peur que cette liberté aussi pourrait empêcher certaines choses aussi avec les gens qu'on aime.
Ça a été le cas?
Je pense, peut-être. En tout cas, j'ai toujours un petit peu peur de ça, parce que quand on aime, on reste libre, mais on a quelque part une dépendance, donc il y a ce côté un petit peu qui pourrait doubler notre vision de notre propre perception. Mais je peux pas être autrement que libre. En tant que pianiste, en tant qu'artiste, en tant qu'une femme.
Mais ce qu'il faut entendre aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail d'être libre, accéder à ce niveau de liberté quand on est un artiste, accepter de plus rien contrôler, de lâcher.
Vous pensez que c'est un travail? Moi, je sais pas, je pense à la nature.
C'est vrai?
Oui. Le travail, c'est que justement,
vous avez toujours réussi à lâcher
prise. Quand je joue au concert, je ne pouvais pas jouer autrement que complètement librement. C'était ça. Sur scène, j'arrivais pas autrement. En fait, je pouvais pas être quelque chose d'autre. Je pouvais plus contrôler cette liberté qui se débordait. C'était ça. Pendant le cours, dans les quotidiens, oui, peut-être, mais dès que j'étais sur scène, c'était impossible.
J'ai envie qu'on l'entende, moi, cette liberté.
Je vous invite en concert.
Nous, alors, on le fait maintenant.
Chiche. Ah, maintenant, oui, d'accord.
Chiche. On lâche prise. Et ensemble, je vous invite à rejoindre le piano du studio 621. En direct, ce matin, vous avez choisi de nous jouer un prélude de Chopin, l'opus 28, numéro 4, en mi mineur, dont on parlera ensemble juste après, évidemment. Vous êtes sur France Inter avec Katia Bougnatichvili qui s'installe. Vous écoutez Boomerang. Nous sommes... unis.
Thank you.
C'est merveilleux. Vous pouvez nous rejoindre. Katia dans le studio et elle se lève. On est quelque part entre la star hollywoodienne des années 40 et la guerrière. Le cheveu Athéna tout en boucle et en soie, le profil Jeanne d'Arc, le regard Xena. Ce sont pas des notes qui sortent de ses doigts, mais des étincelles qui vous éblouissent, qui vous donnent envie de déposer les armes avec sa veste croisée rouge. La pianiste donc franco-géorgienne Katia Bougnatichvili, invitée de Boomerang ce matin et sur scène ce soir ici à Radio France pour ce concert qui sera retransmis sur notre chaîne et sur France 2 Unis pour l'Ukraine. Ce morceau de Chopin, pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous le jouer ?
Ce morceau, j'aime particulièrement. C'est un morceau, ça n'a pas forcément un lien avec le contexte ce soir ou en général. Mais c'est un œuvre qui, justement, qui représente très bien la solitude humaine, je pense, de l'individu. Cette solitude qu'on a bien conscience depuis la naissance, je pense, il y a quelque chose qu'on ressent, même si on peut être bien entouré ou pas bien entouré, mais en tout cas on a conscience qu'on est dans la société, cette solitude qui, comme un fil, vit avec nous pendant toujours, et on a l'impression qu'à un certain moment on doit faire face à cette solitude.
C'est quelque chose que vous ressentez quand vous le jouez à chaque fois ?
Oui, je pense que oui. En fait, c'est plus fort. La musique des génies, les compositeurs génies qui ont composé, c'est plus fort des fois que notre état d'âme à ces moments-là, parce qu'on peut penser à quelque chose d'autre. Mais la sonorité nous mène quand même vers quelque chose que le compositeur voulait. Ça, c'est les compositeurs géniaux. Il y a d'autres compositeurs qui sont moins géniaux, qui n'arrivent pas à le faire, mais je pense que Chopin, il arrive.
Vous savez, c'est fascinant en tout cas de vous voir l'interpréter ce morceau ce matin, de voir la manière dont vous faites entièrement corps avec votre instrument, avec les notes qui s'en échappent. Le corps, qu'est-ce que ça représente pour la pianiste que vous êtes ? Le corps qui accompagne en fait l'instrument ?
Le corps, c'est très important parce que c'est très physique, bien évidemment, d'être instrumentaliste. Ensuite, justement, ça a énormément d'importance parce que c'est le processus où, justement, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est avec les mains, avec notre corps, bien évidemment, avec le cerveau, qu'on crée tout. On produit le son, on met notre énergie, mais en même temps, dès que ça commence à devenir le processus essentiel, ça perd son importance. Oui. Donc c'est ça qui est important, parce qu'à la fin, c'est la sonorité qui compte.
Au point de devenir, comme vous le disiez tout à l'heure, immatériel.
Tout à fait. C'est comme, même si je ne suis pas religieuse, c'est comme s'il y a un corps qui fait quelque chose, et on peut ressentir l'âme qui regarde le corps, mais qui est quelque part ailleurs. Voilà, c'est...
La musique,
métaphoriquement.
Oui. Quand est-ce qu'elle est rentrée dans votre vie, la musique, Katia, vous, dont la sœur aînée, Gvantsa Bougnatichvili, est aussi pianiste et nous écoute ce matin en régie.
Je pense depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je suppose, puisqu'elle jouait, elle chantait, elle écoutait la musique, et puis pour elle c'était essentiel la musique, et pas seulement la musique classique, mais aussi folk, jazz, différents genres. Elle était très libre depuis notre naissance de nous faire présenter la musique, pas seulement dans une seule forme, et je crois que ça s'est resté, d'où ça vient aussi mon intérêt pour d'autres genres.
Mais alors, si on peut disparaître, comme vous nous le disiez, en faisant de la musique, ça a pu être un refuge pour vous ?
Tout à fait, je pense. Mais c'est aussi une habitude que ça soit une refuge. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre plus tard. Mais depuis l'enfance, j'avais le contact avec le piano, l'instrument. Et c'est devenu naturellement une refuge psychologique.
J'ai envie de vous faire entendre quelque chose ce matin. D'accord. Vous voulez bien ?
Absolument, oui.
On écoute. Parce que vos yeux se sont tout de suite...
Oui, ça c'est Ivry Gitlis, mais même sans savoir, j'ai deviné aussi facilement, parce que tout le monde sait que je suis fan, et j'étais amie d'Ivry Gitlis, grand violoniste, je pense, pour moi, mon favori de tous les temps. Sa façon de jouer, sa façon, la sonorité qu'il a, ça parle, j'entends sa voix aussi personnelle, j'entends son image, je vois son image visuelle, c'est quelque chose tellement individuel, tellement différent, tellement on reconnaît tout de suite que c'est vrai que ça touche.
Et là, en l'occurrence, vous êtes en train de l'accompagner au piano, c'était il y a 6 ans, lors d'un concert à Aix-en-Provence. C'est une Sicilienne en mi bémol majeur, Maria Teresa von Paradis.
Oh, vous êtes gentil de dire tous les noms, parce que t'as vu tout le cours plus Paradis.
Ce qui est intéressant avec Ivry Gitlis, dont vous étiez effectivement très proche et qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an, c'est que c'était un ardent militant pour la paix.
Absolument.
Quelle conception de la musique est-ce qu'il portait, Katia Bouniatichvili?
Il aimait la vie et dans sa musique, ce qui comptait, c'est la vie. Mais parce que justement, il était une âme très libre et il aimait la vie, il aimait pleinement vivre aussi, il appréciait la paix et surtout donnait tellement d'importance à la paix parce qu'il voulait que, justement, parce qu'il avait cette liberté et l'amour pour la vie et il a vécu des choses difficiles dans sa vie depuis son enfance, il voulait que les autres êtres humains, ils ont même possibilité dans leur vie. Il croyait en égalité dans ces sens-là, que tout le monde méritait vivre pleinement et en paix.
Et que peut...
Il faisait énormément, par exemple, il allait en Afrique, il jouait juste comme ça dans la rue, dans une campagne, quand il a eu les problèmes au Japon, quand il a eu justement, tout le monde avait peur de, comment on dit, de ce qui est des radiations. Lui, il allait en ce moment-là, il jouait devant l'arbre, il faisait des choses pour soi-même, parce qu'il avait besoin de ça et il faisait pas une publicité où il avait pas des journalistes autour de lui. Il le faisait. On a quelques photos qui restent heureusement. Il faisait parce qu'il avait besoin de ça. Et c'était un vrai être humain qui vivait pleinement et donnait aussi beaucoup à l'humanité. C'est rare.
Au fond, que peut la musique?
Pas pour les caméras. Vous voyez, oui, c'était, il voulait tout simplement.
Mais qu'est-ce que ça peut faire la musique pour la paix, justement?
Non, je pense que c'est un être humain qui peut faire quelque chose pour la paix et c'est des êtres humains qui aussi arrivent jouer aussi génialement, aussi uniquement, parce qu'ils sont des êtres humains particuliers, ils arrivent à transmettre ça dans la musique. Et c'est cette musique-là qui nous touche.
Au fond, qu'est-ce qui vous a transmis, qu'est-ce qu'il vous a appris, le violon d'Ivry Gitlis?
La liberté et vivre complètement, pleinement. La liberté, on peut pas apprendre, mais ça peut nous rappeler. Vous savez, on sait tous que la liberté, c'est quelque chose de bien, n'est-ce pas? On nous a appris depuis qu'on est enfant. Mais après, il y a des êtres humains qu'avec leurs propres exemples, ils nous rappellent cette beauté. On a l'impression qu'on vient de découvrir cette liberté. Et cette renaissance chaque fois, c'est-à-dire que quelque chose est né comme si c'était pour la première fois. Et des êtres humains comme Ivry Gitlis y arrivent à faire.
C'est beau.
Non, c'est magnifique, oui.
Pour terminer cette émission, vous avez choisi de nous jouer un adagio de Marcello et Bach. Ce morceau, qu'est-ce qu'il vous raconte, Katia Bouniatichvili? À quel moment de votre vie est-ce que vous l'associez? Parce qu'il y a toujours un moment avec vous.
C'est aussi comme une renaissance. Vous avez parlé de silence, c'était très beau, vos paroles, c'était vraiment touchant. La musique, ce n'est, j'ai dit ça aussi avant, ce n'est dans le silence. Il y a le silence et ensuite, on ne sait pas quelle naissance ce silence va donner. Et justement, c'est Marcello Bar, ce pièce adagio, ça sonnait dans le silence, ça sonnait dans une seule note ensuite et on ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est justement cette non-connaissance, mais cette confiance que ça pourra nous mener vers quelque chose de bien, nous donne envie de vivre, nous donne envie d'espoir aussi, parce qu'en ce moment, c'est pas très positif. Mais j'y crois. Je reste positif, je reste optimiste, parce que si on reste pas optimiste, j'ai l'impression que ça veut dire qu'on lâche et on n'a plus confiance et rien de beau peut se naître de là. Donc, je suis assez sceptique dans la vie, mais je décide d'être optimiste.
Alors, Katia, je vous laisse rejoindre à nouveau le piano du studio 621.
Merci, Augustin.
Pour clore cette émission sous le signe de la beauté, on l'a compris, de la résistance, de l'union pour l'Ukraine et de la vie, avec cet adagio, ce concerto en ré mineur de Bach, c'est à vous. Mais merci. Merci Katia Bouniatichvili, merci pour la liberté, pour la résistance. Merci aussi à Sofiane Aktib et Rémi Sistiaga à la technique et à la prise de son ce matin. Je rappelle, Katia, que vous serez ce soir donc au concert Unis pour l'Ukraine avec la Croix-Rouge française, présenté par nos amis Leïla Kadour Boudadi et Nagui à partir de 21h, et qu'on vous y entendra jouer le concerto numéro 23 pour piano et orchestre de Mozart. C'était magnifique. Tout de suite, les médias, Sonia De Villa et son instant M. Ça va, Sonia?
Ah oui, Augustin, merci.
À demain.
À demain.